voici dans la deuxième partie du magazine au Capi Service. Comment mieux apprendre ses notes? Excusez-moi. Comment mieux apprendre ses notes scolaires et académiques? Nous en parlons avec le coach Julie Usilumba. Il est sophrologue. Bonjour et bienvenue dans Capi Service, coach.
Bonjour Tati. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je vous aime beaucoup.
Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-736-9941. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler hein, pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos questions par les mêmes numéros. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Simon de Kananga. Cet internaute nous révèle ceci. Qui écrit mieux, lit bien. Il répète, hein, qui lit bien, comprendra mieux. Nous attendons également vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiocapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne cette émission. Jean-Marc Matoua qui est à la supervision. Grâce à un Vezolo s'occupe de la réalisation de cette émission et Alain Goyi est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Comment mieux apprendre, comment bien assimiler ses notes scolaires ou académiques. Nous en parlons dans cette deuxième partie du rendez-vous au Capi Service. Les établissements scolaires et universitaires sont des lieux d'apprentissage hein, essentiels où les apprenants acquièrent des connaissances et développent des compétences hein, qui leur préparent pour la vie professionnelle et sociale. Avoir des bonnes notes à l'école est souvent perçu comme un indicateur de succès académique. Il est cependant difficile pour de nombreux étudiants, de nombreux apprenants de bien assimiler la matière enseignée devant leur permettre de distinguer ou de satisfaire aux épreuves d'évaluation des enseignants pendant l'année scolaire, ce qui est souvent facteur hein, des redoublements scolaires pour plusieurs apprenants. Comment alors bien assimiler, comment mieux apprendre ces leçons pendant l'année académique ou l'année scolaire? Nous en parlons avec le coach Julius Elumba. Il est sophrologue également, auteur d'une publication dénommée Apprendre pour réussir son enseignement. Coach Julius, première question, l'apprentissage. Comment le définissez-vous, ces concepts?
Bon, pour moi, l'apprentissage, je le mets toujours dans le sens de la communication. C'est l'échange, c'est-à-dire qu'il y a un apprenant, c'est-à-dire il y a un émetteur, l'enseignant, les parents, la personne qui émet l'information, et l'autre qui les capte, mais dans l'intention de l'assimiler pour les mettre en pratique.
De la maîtriser pour les
mettre en pratique. Restituer, parce que les restituer, c'est ce qui est fondamental. C'est pas seulement parce que les gens croient que apprendre, c'est seulement comprendre. Non, vous pouvez comprendre, mais si demain vous ne savez pas l'utiliser, le mettre en pratique, ça ne sert à rien. C'est que l'enseignement, pour moi, c'est un fil qui va jusqu'à l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est la pratique. Mmh. Aujourd'hui, on a modifié les termes d'apprentissage parce que ça fait même partie de ma proposition de la réforme et de la qualité de notre enseignement. Parce que l'enseignement, ce n'est plus parler ou écrire.
Il y a maintenant ou mémoriser, gober des définitions, des théories.
On a même décrit ce qu'on appelle la pyramide de l'apprentissage, où on a décrit que enseigner seulement par rapport à ce que l'élève apprend au cours, ça n'apporte que moins de 10% dans la mémorisation. Alors que si vous enseignez avec des livres et des documents, c'est 10%. Les audios, par exemple, tels que nous parlons là, et les vidéos, c'est 20%. Mmh. Et lorsque vous utilisez une démonstration, c'est 30%.
Mais pour arriver à 50%, parce que là, dans la démonstration, on est dans la pratique.
Voilà. Et lorsque vous passez à ce que nous appelons discuter en groupe, les discussions en groupe, nous passons maintenant à 50%. Apprendre en les faisant, ça nous amène à 75%, c'est-à-dire 75%. Et c'est lorsque vous enseignez, ça arrive à 90%. J'insiste sur ça.
Apprendre en les faisant, c'est-à-dire par exemple en immersion.
Oui, en immersion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enseignement, c'est cette chaîne-là où la personne apprend par vocale, visuelle, avec des démonstrations. Mais surtout, il doit participer à la discussion. Lorsqu'il y a échange, ça améliore son apprentissage. Mais surtout, surtout, lorsqu'il le fait lui-même. Et enfin, ce qui dépasse tout, lorsqu'il enseigne. Aujourd'hui, les élèves doivent enseigner d'autres élèves. Je commence déjà par là pour dire aux enseignants, ça c'est la nouvelle pédagogie, on appelle ça la neuroéducation. On a étudié comment est-ce que le cerveau apprend. Il faut que les élèves apprennent à donner cours, à enseigner. L'enseignant est expert parce qu'il enseigne. Moi, il y a de la matière où parfois j'en parle, j'ai donc, même pas besoin de lire.
On ne doit pas rester dans la logique émetteur, enseignant et puis récepteur,
non.
L'apprenant.
C'est pour ça que je dis, c'est l'échange, les enseignants doivent former les élèves à enseigner. C'est ça, ça fait 90% de mémorisation, c'est scientifique, ça... Tout le monde peut taper sur Google, maintenant, écrivez pyramide d'apprentissage, vous allez voir, ça, c'est la meilleure façon d'enseigner un enfant.
Oui, mais dans ces processus d'apprentissage, comment m'y apprendre? Je suis étudiant, je suis élève, je dois passer des épreuves. Comment, que faut-il faire pour bien assimiler d'abord la matière apprise et extérioriser cette matière-là pendant les interrogations, pendant l'évaluation?
Très bien. Bon, je vais y aller par étapes. J'aimerais vraiment y aller calmement. La première chose pour mieux apprendre, c'est avoir l'attention et la concentration. C'est-à-dire l'élève, l'étudiant ou le secrétaire ou dans le travail pour apprendre. Parce que apprendre commence par capter l'information, percevoir. C'est-à-dire voir, entendre, sentir. En fait, ça doit entrer dans le cerveau. Pour que ça entre, il faut que votre attention soit focus. On appelle ça attention focalisée. Si vous écoutez plusieurs sons, vous n'allez pas apprendre. Si vous regardez plusieurs images, c'est-à-dire vous regardez l'enseignant, vous regardez votre collègue, vous regardez autre chose, vous n'allez pas apprendre. Ça, j'insiste, c'est la première chose. Attention, ça veut dire que, attention focalisée, ne voir qu'une seule chose, n'écouter qu'une seule information. Là, vous permettez au cerveau d'accéder à l'information.
La concentration.
La concentration. Concentrer, c'est ramener au centre où il y a un seul point. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non. On n'apprend pas de façon passive, là où on n'apprend pas. Ça, c'est l'information est entrée. Maintenant, lorsque l'information entre, ça arrive au cerveau. Le cerveau, le premier rôle, c'est de comprendre. Analyser ces informations-là pour comprendre. Et pour comprendre, il y a deux paramètres. Le premier paramètre, dans notre cerveau, chacun a un dictionnaire. Nous avons un dictionnaire dans notre cerveau. Si je dis papa, votre cerveau vous définit ce que c'est papa.
C'est qui papa?
Voilà. Mais si vous n'avez pas l'information de papa, le cerveau ne saura pas vous le dire. Et c'est à ce moment-là, il faut poser la question. C'est ce que vous faites à un enfant. Si vous le montrez un oncle, il ne connaît pas ce que c'est un oncle. Il va vous demander, oncle, c'est quoi? Quand vous commencez à lui dire, non, c'est le frère de maman. Là, il retient la définition. Ça entre dans son dictionnaire. C'est la compréhension à deux parties. Il y a une partie interne, mais il y a une partie externe. C'est-à-dire, il faut poser des questions pour avoir des informations, pour mieux comprendre. C'est-à-dire, comprendre, c'est pas automatique. C'est automatique lorsque votre dictionnaire contient ces éléments-là. Mais s'il y en a pas, il faut qu'on vous explique. Et là, pour vous expliquer, la personne qui vous explique utilise ce que nous appelons les liens. Je reprends l'exemple de l'oncle pour donner la définition de l'oncle à l'enfant. Qu'est-ce que le parent dit? Vous voyez votre mère. Il a ses grands frères et ses petits frères. C'est ce qu'on appelle oncle. Ça s'appelle lien en neuropédagogie.
C'est-à-dire, ses petites sœurs et ses grandes sœurs, ce sont des tantes.
Des tantes. C'est ça, créer des liens pour que son cerveau
retienne la définition.
Voilà, ça c'est la deuxième partie, c'est-à-dire la compréhension. Maintenant, lorsque vous comprenez, ce qui va suivre, c'est il faut retenir cette information dans votre cerveau. Le stockage, c'est ce qu'on appelle la mémorisation. Il faut garder cette information parce que, comme nous venons de le dire, l'étudiant ou l'élève ne va pas l'utiliser ces jours-là. Il va l'utiliser demain et puis surtout dans la vie professionnelle. Parce que là, c'est là où je vais insister pour l'enseignement. Nous, on est toujours dans la méthode, l'enseignant enseigne en fonction de l'interro.
Non, on enseigne en fonction de la vie pratique. Si tu es le cas coach, l'enseignant aussi doit donner la bonne information.
Je vais y arriver. Je vais y arriver, mais je donne d'abord ce cheminement-là. C'est-à-dire qu'il y a l'attention, concentration, la compréhension. Maintenant, la mémorisation. Et la mémorisation, il y en a aussi deux parties. Il y a une partie, ce qu'on appelle la mémoire immédiate. C'est-à-dire à court terme. Là, il retient, par exemple, là, je vous dis que non, ça, c'est Tati. Il retient le nom. Mais si vous proposez peut-être la question 30 minutes après, s'il n'avait pas d'intérêt, je vais expliquer pourquoi, il ne saura plus les mêmes noms.
Retenir le nom.
Voilà. Et puis, il y a la mémorisation à long terme. C'est ce qui est important dans l'enseignement. Parce qu'il doit l'appliquer et l'utiliser après. C'est ça la base de l'éducation aujourd'hui. Mais nous avons encore des enseignants qui enseignent en fonction de l'interro. Il enseigne par rapport que samedi, il y a interro, à la fin du mois, il y aura examen. Non, on enseigne un enfant par rapport à sa vie. Par rapport à la
pour que ça lui serve dans la vie professionnelle,
voilà,
et dans la vie courante.
Il y a des méthodes pour mettre la matière dans la mémoire à long terme. Il y a la mémoire à court terme, Il y a des méthodes pour ça, mais tout. Et puis après, quatrièmement, c'est la restitution, la retransmission.
On la a encaissé.
Oui, j'ai retenu l'information, j'ai compris, j'ai stocké.
Mais oui, il faut l'extérioriser.
Ça fait partie de l'apprentissage. Comprendre, ça ne suffit pas. Mémoriser, non, il faut l'extérioriser. C'est là où il y a maintenant ce qu'on appelle les tests d'évaluation. Nous, on appelle ça toujours ici des examens. Non, ce sont des évaluations. Pour évaluer que tu as entendu, tu as compris, tu as mémorisé, on peut t'évaluer. Mais on peut t'évaluer dans la pratique aussi, si tu sais le faire. C'est que ça, c'est la restitution.
Par exemple, comment démonter pour nous ces micros.
Voilà. Maintenant, sur les quatre phases que je viens de citer, attention, concentration, compréhension, mémorisation et retransmission ou restitution, il y a une phase qui est transversale. C'est qu'on appelle l'engagement actif, les émotions, la volonté. Si on n'a pas le vouloir, si on ne s'engage pas, on n'apprend pas. Le cerveau apprend là où vous mettez votre attention, là où vous avez la passion, vous aimez ça. C'est-à-dire, on appelle ça en termes neuropédagogiques l'engagement actif. L'élève ou l'étudiant, s'il ne s'engage pas, le cerveau ne capte pas cette information. Vous pouvez bien lui expliquer, mais ça va couper ça quelque part. Voilà les cinq phases essentielles pour apprendre. Et ça, c'est très capital pour notre enseignement aujourd'hui. Vous savez, moi, je félicite toujours les autorités. Maintenant, nous avons réussi une partie de notre pari d'augmenter le nombre des apprenants. Supposons qu'il y avait 5 millions d'élèves. Aujourd'hui, on est à 10 millions. Félicitations. On a augmenté en quantité.
Oui, mais la qualité. Là, il faut voir aussi le côté qualité.
La qualité. Et c'est là où j'ai proposé une réforme, une loi pour réformer notre qualité de l'enseignement. Dans la qualité, il y a deux parties. Il y a la forme et le fond. Le fond, je laisse ça aux spécialistes. Le professeur de géographie connaît la géographie. Le professeur de mathématiques connaît le contenu. Mais il y a la forme dans la qualité. Comment est-ce que le cerveau peut comprendre, mémoriser et restituer?
Dans c'est la ça, transmission. La dans la transmission des connaissances.
Voilà. Et c'est là où maintenant il y a la part, la grande part de l'enseignant. Je vais ouvrir une parenthèse. Ce livre, j'ai voulu l'exposer à une institution supérieure ici. Je suis allé, j'ai vu le secteur général académique, je l'ai expliqué. Il m'a dit, mais docteur, vous voulez expliquer aux étudiants comment mieux apprendre et réussir. Mais ce que vous êtes en train de nous expliquer là, nous les professeurs, nous ne connaissons pas ça. Il faut commencer par nous. J'ai dit, ok, d'accord. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont pas encore rappelé. Vous comprenez qu'il y a vraiment des choses. Ce n'est pas parce que tu es licencié, tu es professeur, tu es docteur. Non, la science évolue. Je vais dire quelque chose ici de très capital. L'enseignement, la pédagogie telle qu'on enseigne dans nos écoles, à l'université, c'est planifié selon le développement d'un enfant. C'est pas pour rien, l'enfant commence l'école primaire à 6 ans, termine à 12 ans. C'est calculé par rapport au développement du cerveau. L'apprentissage, c'est le cerveau. Ce n'est pas le genou qui apprend, c'est le cerveau qui apprend. C'est qu'on sait qu'à cet âge-là, il peut apprendre A, à cet âge-là, il peut apprendre B. C'est comme ça qu'on a modulé ça. Mais cette formule-là, aujourd'hui, 50% des informations se sont avérées fausses. C'est-à-dire, on ne connaissait pas comment est-ce que le cerveau fonctionnait. Il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas l'IRM. Aujourd'hui, on sait comprendre. Lorsqu'on crée cette émission telle qu'on parle là, on peut examiner nos cerveaux pour comprendre comment est-ce qu'on a l'attention, concentration, comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on mémorise, comment est-ce qu'on va restituer. C'est qu'on sait avoir ça avec les appareils et on a modulé la façon d'enseigner. C'est ce qu'on appelle la neuroéducation, la neuropédagogie. C'est pour cela que
je propose. Elle repose sur quoi?
Elle repose sur une adaptation. Adapter maintenant le fonctionnement du cerveau à l'apprentissage. Par exemple, attention, concentration. Une personne normale, l'homme ordinaire, a une attention, concentration de 15 minutes.
Vous voyez cette émission? Au-delà de 15 minutes, le cerveau s'est fatigué.
Cette émission telle que les gens nous suivent, si dans les 10 premières minutes, vous ne dites pas quelque chose d'intéressant, il va zapper.
Ils vont aller ailleurs.
C'est ça notre cerveau. C'est-à-dire, les enseignants, les pédagogues, j'aimerais que cette émission, les enseignants puissent suivre ça. C'est un enseignant doit savoir ça, que les élèves tels qu'ils sont là, les étudiants qui sont là, chaque 10 minutes, il doit apporter quelque chose de nouveau qui peut capter leur attention. Et ça, c'est la neuropédagogie. C'est-à-dire, ça ne sort pas du hasard, ça sort de l'apprentissage du cerveau. Il y a que les bouddhistes qui ont appris à rester concentrés pendant une heure, pendant une semaine, pendant un mois. Nous, les hommes ordinaires ici, c'est 15 minutes. Même dans des conférences. Si vous tenez une conférence de 2 heures ou de 3 heures, chaque 15 minutes, il faut ramener. Il y a des méthodes maintenant pour le faire. Parfois, il faut poser une question, bouger les gens.
Une anecdote, par exemple.
C'est ça la neuropédagogie. C'est-à-dire, on adapte l'enseignement au cerveau. Même pour la compréhension, il y a aussi des méthodes. Même pour la mémorisation, il y a des méthodes. Et pour chaque partie. Et aujourd'hui, je vais vous parler par rapport à la prise de notes, comme vous avez insisté, justement par rapport à cette neuropédagogie. C'est-à-dire que c'est pas pour écrire seulement, parce que l'enseignant, non. Ici, l'objectif, j'insiste, l'objectif est que vous soyez concentré, vous comprenez, vous mémorisez, vous soyez capable de restituer. Aussi longtemps que l'enseignant ne réussit pas ces quatre étapes, c'est sa faute. J'insiste ici. Nous, on a étudié dans des universités, dans des écoles où le professeur était content qu'il a donné une interrogation et aucun élève a réussi. Dis non, ça, le babamoyen soit juste zéro. Le procès, non, sous d'autres essais, aujourd'hui, on te renvoie. Tu as échoué.
Parce que sous d'autres essais, les apprenants comptent aussi les
oui, formateurs. Moi, j'ai étudié la sophologie. Tout ce que j'ai appris ici, après l'examen, dès que le prof arrête de m'interroger, il met la cotation, le système m'envoie une feuille pour évaluer les profs. Ici, les profs, non, on doit aussi les évaluer. Moi-même, dans des cours, j'ai fait une conférence quelque part. Après la conférence, j'ai demandé à ceux qui étaient là de m'évaluer. C'est ça, l'enseignant. Et j'insiste, tous les enseignants doivent écouter ce que j'ai dit ici. Et le procès d'université. Enseigner, c'est l'enfant doit être concentré, comprendre, mémoriser, être capable de restituer. Si vous ne réussissez pas ça, mais vous n'avez pas enseigné. Hein? C'est votre faute, c'est pas l'enfant. Oh non, il n'a pas compris. Non, c'est pas l'enfant de. Non, l'enfant est venu apprendre. L'enfant quitte sa maison. Les parents payent les minévales pour apprendre. C'est ton devoir de les faire entrer la matière. C'est ça l'importance de la neuropédagogie. C'est-à-dire, les enseignants doivent être recyclés. Il ne faut pas garder les mêmes méthodes alors que ça n'entre pas. Vous critiquez l'enfant, non, lui, il est... Oui, non, la plupart des enfants... Je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'Albert Einstein, on l'a chassé de l'école. Pourquoi? Il regardait très souvent la fenêtre lorsque l'enseignant enseignait. Et l'enseignant disait, mais toi, tu es distrait. Lorsqu'il pose la question, il répond. Alors, il regardait à la fenêtre et ça créait des problèmes. Je vais vous dire pourquoi. C'est même pour ça que je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les humains sont classés selon l'attention, c'est-à-dire nos sens. On a trois groupes. Nous utilisons cinq sens.
Nos organes de sens.
Voilà, parce que c'est par là que l'information entre. L'enseignement, l'apprentissage commence par les organes de sens.
Exactement.
Voilà. Nous avons tous les sens, mais nous utilisons ça en trois groupes. C'est-à-dire la majorité des humains, 60 à 70%, sont des visuels. C'est-à-dire, la majorité des gens apprennent par la vue. Les Thomas sont les majorités. C'est-à-dire, il y a plus, nous tous, moi-même, je suis aussi visuel. Je vais même donner les caractéristiques. C'est-à-dire, la majorité des humains utilisent la vue. Si vous voulez les enseigner, priorisez quoi? C'est qu'il faut voir. 20% des humains utilisent l'audition.
Lui, l'écoute.
Oui. Je ne dis pas que celui qui utilise, lui, n'utilise pas la vue, non. Nous utilisons tout, mais il y a ce qu'on appelle le sens dominant. 20% des humains utilisent lui. Notre chef de l'État est auditif. J'ai écrit un livre sur lui. Regardez dans toutes ses photos, dans toutes ses conférences, il tend toujours l'oreille parce qu'il est auditif. C'est qu'il donne priorité à ceux qui l'écoutent. Et 10%, ce sont des kinesthésiques. Ce sont des gens qui apprennent
par les mouvements,
par les sensibilités. Ce sont ces élèves-là que les enseignants appellent les turbulents. Sous d'autres essais, il n'y a plus de turbulents parce qu'on a. Aujourd'hui, dans d'autres salles de classe, il y a des vélos. Il y a des gens, regardez aussi au bureau. Vous allez voir que les gens, lorsque vous tenez une conférence, lui, il tourne son stylo. Ce sont des kinesthésiques. C'est-à-dire, pour apprendre, il doit être en mouvement. Il doit bouger, il doit toucher quelque chose. Ce sont des élèves-là qui jettent des papiers, qui touchent son voisin. Vous dites, il est turbulent. Non, c'est comme ça que lui, il apprend. Si tu veux qu'il puisse apprendre, c'est déjà, il faut les apprendre sur le terrain en bougeant. Et là, son cerveau capte. C'est qu'il y a trois catégories d'apprenants, les visuels, les auditifs, et les kinesthésiques. D'où l'enseignant. Là, je commence par l'enseignant. L'enseignant, lorsqu'il enseigne, dans la salle, il y a les trois catégories. Il doit utiliser des méthodes qui favorisent les visuels, qui favorisent les auditifs, qui favorisent les kinesthésiques. C'est ça la neuropédagogie. Parce que si toi, tu es enseignant, tu ne fais que parler. Nous, on a eu des profs comme ça. Il vient, il s'assoit avec son syllabus, il commence à vous dicter, à parler, jusqu'à pendant des heures, il sort. Ça, c'est un cours qui profite aux auditifs. Et il y a des gens qui font des projections, qui écrivent au tableau. Et parfois, ils ne parlent pas. Nous, on avait un prof comme ça. Si vous faites trop de bruit, il ne parle pas, il ne fait qu'écrire. Ça profite à ceux qui voient, en majorité. Et les gens qui ne touchent pas, qui ne bougent pas. Non, il faut les bouger, il faut les faire parler, les mettre debout, s'asseoir. Et son cerveau, maintenant, se met en mouvement. C'est important d'enseigner selon, d'abord, la particularité de chaque enfant, si c'est en individuel, et la particularité de la classe en mélangeant les trois groupes. Voilà. Ces trois méthodes-là, pour les visuels, les auditifs et les kinesthésiques, que je vais donner maintenant dans la prise de notes. C'est-à-dire, les trois groupes ne doivent pas prendre des notes de la même manière. Non. Ne doivent même pas s'asseoir dans la salle de la même manière. Je vais donner déjà un exemple. Les visuels. Pour mémoriser, notre mémoire se trouve à l'hémisphère droit. C'est-à-dire, la partie droite du cerveau, là où il y a les circonstances, c'est là où nous mettons toutes les données qu'on va utiliser dans la vie. Les informations qui entrent dans l'hémisphère droit viennent en grande partie de l'œil gauche.
Ok.
C'est-à-dire, le visuel, s'il veut améliorer sa mémoire, doit rester à droite de la salle pour voir le tableau et l'enseignant à gauche.
À gauche.
Lorsque le tableau est plus à gauche et l'enseignant plus à gauche, les informations là entrent plus facilement directement à l'hémisphère droit. L'auditif. L'auditif, lui, les nerfs des oreilles ne croisent pas. C'est-à-dire, le visuel, gauche part à droite, droite part à gauche. C'est pour ça que j'ai dit qu'il doit rester à droite pour regarder à gauche. Et là, l'information entre plus facilement. Mais les auditifs, et comme c'est l'hémisphère droit qui garde plus d'informations, il doit présenter l'oreille droite. C'est ce que la plupart des gens font, les auditifs, ils te présentent l'oreille. D'où, quand il doit se mettre à gauche.
Oui, vous me permettez de partir d'abord au standard et puis nous allons retourner ici au studio parce qu'il y a les auditeurs qui attendent. Comment mieux assimiler, comment mieux apprendre ses notes scolaires ou académiques? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Le premier auditeur, il intervient à partir des Bounia, c'est Monsieur Justin. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour aux psychologues.
Au néphrologue plutôt. On vous donne la parole.
Oui, merci M. Tati pour la thématique. Oui, en tout cas, la prise de notes de nos apprenants devient un casse-tête. Moi, je me demande que est-ce que, en tout cas, le ministère de l'enseignement, est-ce que c'est un ministère qui prend en tout cas ses responsabilités, où va l'enseignement congolais, quel que soit dans nos écoles, dans nos universités en tout cas, l'enseignement est au rabais. Le fait que la RDC fait des copier-coller, quand moi je vois cette histoire de l'MD, ça me dégoûte même, je n'ai plus en tout cas l'envie d'étudier. Bon, peut-être ce seront mes enfants, hein. Vu ce qui se passe, oui, M. Tati, un universitaire, un licencié, un diplômé, quelqu'un qui ne sait même ni lire ni écrire, il est licencié. Quelqu'un qui est là, M. Tati, même s'exprimer. Il y avait quelqu'un qui était dans mon bureau. Alors, il voulait passer à l'interview, mais allez voir la façon dont celui-là s'exprimait. Vous pensez que il a fait quelle école, alors qu'il s'est battu la poitrine et lui, il est licencié. Moi, je dois demander en tout cas au ministre de l'enseignement et en tout cas qu'il puisse marteler sur la prise de notes de nos apprenants. Parce que ça fait mal quand un diplômé actuellement, il vous écrive « Monsieur Tati, ça fait honte ». Alors, nous demandons que la radio Okapi puisse sensibiliser à travers en tout cas et ces médias puissent sensibiliser nos parents et aussi le ministre afin qu'on puisse éviter cette histoire de copier-coller, de LMD, cette histoire en tout cas. Nous ne connaissons pas si la RDC était d'abord déjà préparée cadassée parce que ça ne vaut la peine. Sinon, merci M. Tati et bon début de la semaine.
Merci beaucoup M. Kalabia. Justin, nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia, en Ituri, que vous intervenez. Excellente journée. Nous retournons ici à Kinshasa pour donner la parole à Maître Omar. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour M. Tati et bonjour à l'invité.
On vous donne de nouveau la parole.
Merci beaucoup M. Tati du Verbe que vous m'adjugez à nouveau. J'ai d'abord des questions avant de finir rapidement avec ma petite contribution. La première, monsieur l'invité, qu'en est-il des surdoués? En pédagogie, on distingue les savants, les surdoués, les doués, les moyens et les imbéciles, comme on les dit. Mais une catégorie d'élèves, oui, quand nous fûmes à l'école, oui, qui ne prennent pas note, mais qui réussissaient. Moi, j'en ai vécu. Un élève qui vient, qui est peut-être dérangeur, qui n'a pas de notes, mais il est peut-être premier ou deuxième. C'est quoi cette réalité? Deuxième question.
Là, apprécié votre approche. Oui, ça c'est un candidat qui a une faculté mnémonique assez élevée.
Voilà. Merci beaucoup, M. Tati, de compléter. Donc, de précéder la réponse de l'invité. Alors, deuxième question, comment déceler? Vous parlez des visuels, des auditifs, des gestuels. Moi, c'est vrai que j'ai quelques notions aussi au cinéma sur la gestuelle, mais c'est une nouveauté, félicitations. C'est ce qu'on appelle élite, quelqu'un qui utilise son cerveau pour apporter des problèmes, des solutions aux problèmes de sa communauté. Ce n'est pas le fait de parler français, anglais, d'avoir plusieurs thèses. Pour cela, je les félicite. Mais comment les déceler? Que tel est visuel, tel est gestuel. On a étudié depuis longtemps, on n'a jamais vu ça. On venait à l'école, on proclame, on passe. On n'a jamais vu visuel ou auditif. Non, c'est une nouveauté. Comment le déceler? Pour chuter, monsieur Tati,
oui, Maître Omar, je pense que ce sont les conseillers pédagogiques qui ont ces rôles à jouer dans les écoles.
Oui, certainement. Même s'ils ne jouent pas leur rôle, ils doivent le faire. Mais oui, parce que chaque école doit avoir un conseiller d'orientation et un conseiller pédagogique.
Exactement.
Les conseillers pédagogiques veillent au respect des normes pédagogiques, la préparation, l'enseignement. Les conseillers d'orientation évaluent chaque enfant, ses capacités et l'orientent à la section qu'il veut. Aujourd'hui, quelqu'un qui a des aptitudes à bien parler, on demande de faire la médecine. Donc, cette émission veut également une interpellation. Mais pour finir, monsieur Tati, cette émission doit interpeller nos responsables de l'enseignement. L'enseignement doit évoluer par rapport aux impératifs de la modernité. Chaque enseignement a un objet, un objectif et une méthode. Et si on échoue aujourd'hui, je suis d'accord avec l'invité, c'est la méthode. Nous autres, par exemple, on est avec la méthode déductive, du général au particulier. Un enseignant entre, il met le sujet. Aujourd'hui, on va voir les noms. Il définit lui-même les noms, il donne les exemples et vous demande de copier. Et c'est comme ça qu'on mémorise. C'est une méthode très mauvaise quand l'étudiant n'est pas au centre. Elle avait comme difficulté, on n'arrivait pas à mémoriser facilement. Il fallait beaucoup lire des deux. C'était un complexe. Les profs étaient pris comme un savant. Le phénomène magister dixit. Mais il y a une évolution. Je parle de la méthode inductive que les VT doivent aussi insérer. C'est dit particulier au général. Et je connais beaucoup d'écoles qui la pratiquent. Il y a l'école émergence, Loupio et autres, j'ai visité. Il y a la méthode aura qui veut dire observation, réflexion, action. Il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont pas de notes. L'élève observe, il réfléchit, il agit. On vient à l'école, on amène une radio. On demande aux enfants, c'est quoi ça? Ils répondent, une radio. On dit, c'est quoi une radio? Les élèves eux-mêmes répondent. Donnez-moi un exemple de radio. Ils donnent. Comment on veut finir? Les profs ne viennent que faire ce qu'on appelle la part du maître. Donc l'élève a été au centre de sa leçon et il la mémorise facilement. Il y a aussi la méthode Sésame dans les cours de français. Aujourd'hui, on enseigne les cours de français comme on veut. Si on veut enseigner un texte, tous les sujets doivent sortir des élèves. Donc il y a déjà des méthodes qui sont là sur place, mais on n'arrive pas à les mettre en place. L'invité a raison, mais si toutes les écoles peuvent le faire. Parce que l'avantage avec les nouveaux systèmes, c'est quoi? L'élève est au centre de sa leçon. Et il se sent mieux, il apprend facilement. La méthode aura, par exemple, qu'Emergence utilise, on fait même des portes ouvertes. Si on veut enseigner le journalisme, il n'y a pas de notes. On appelle Monsieur Tati. Il entre dans la salle de classe, il parle aux élèves avec un micro, et puis les élèves font la conclusion. Les profs font la synthèse. Il y a des écoles qui n'ont plus de notes. Les élèves n'ont que des cahiers de synthèse et des cahiers d'exercice. On veut parler de l'avocat de la justice. On invite un avocat, il expose. Les élèves posent des questions. Le prof fait la synthèse. L'enseignement a évolué. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'inspection pour vérifier. Il y a toujours des méthodes déductives, comme l'a dit l'invité. Allez dans les écoles. Les profs sont assis, ils prennent un élève qui écrit au tableau, les autres recopient. Et il dit, je vais expliquer demain. Alors qu'un enseignement a une structure, lorsqu'on enseigne. Oui, ça s'est fait comme ça. Il est assis, il donne à un autre élève, lui mange les arachides, et puis l'autre écrit avec des fautes. Les élèves récupèrent avec des fautes. L'enseignement au rabais. L'inspecteur ne refait rien. Les directeurs de l'école qui passent ou les CPA, mon cher Komat, bon, mouké, moussala mouké, ils n'enseignent pas. Et quand un inspecteur fait semblant d'arriver, il s'élève. Alors qu'un enseignement a des structures, il faut commencer par réviser la leçon passée. Il faut que les sujets actuels viennent des élèves. On doit motiver. Comment on appelle l'animal qui vole? C'est l'oiseau. C'est quoi un oiseau? Il faut annoncer les sujets. Dans la méthode où on expose. On n'expose pas comme à l'église. Non, non, non. Toutes les réponses doivent provenir des élèves eux-mêmes. Et vous ne faites que la synthèse pour les aider à avancer. Voilà ma petite contribution. Je dis vraiment merci à l'invité. Si beaucoup d'émissions comme ça peuvent évoluer, car c'est ça l'élite. Une personne qui utilise son cerveau pour apporter des problèmes aux communautés dans laquelle ou à la communauté dans laquelle il vit. Merci beaucoup, Monsieur Tati, je vous remercie.
À vous également, nous vous disons merci pour tes suggestions également, pour les compléments d'information et la constatation faite concernant surtout l'enseignement ici en RDC. Excellente journée, Maître Omar. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kine que vous intervenez. Il y a également Claude Niembo qui est également à Kinshasa. Il est assistant à l'UPN. Claude Niembo, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour à l'invité, bonjour à M. Tati, c'est un plaisir.
Comment bien assimiler la matière, comment bien apprendre ses leçons, ses notes scolaires, c'est de ça que nous sommes en train de débattre. On vous donne la parole.
Tout à fait, le sujet est plus qu'intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a un problème lié à l'enseignement que je trouve un peu, dont je trouve la méthodologie anachronique, même un problème aussi lié à l'orientation, même au choix, parce que je m'en vais un peu emprunter le mot de l'honorable Eliezer qui devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale s'est exclamé disant qu'aujourd'hui la RDC est considérée comme un scandale géographique. Mais combien sont orientés? Et c'est comme ça, actuellement l'enseignement devrait évoluer selon le besoin. Il y a le numérique, le PNTIC, mais combien en font usage. Donc aujourd'hui, plus nous sommes dans le droit, nous sommes dans la médecine, dans l'économie, ce qui n'est pas mal. Mais aujourd'hui, combien sont orientés dans ce qui change le monde, dans la nouvelle technologie de l'information et de communication? Alors, s'il faut revenir maintenant au sujet du jour, j'aimerais bien, au niveau d'abord de l'enseignement, moi, je voudrais pas parler plus au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, mais je voudrais d'abord me limiter au niveau de l'enseignement universitaire. Là, ça pose aussi un problème. Il y a d'abord un problème qui est formel, qui est structurel, un problème aussi qui est légal. Pourquoi avoir pris la décision d'annuler, par exemple, la vente de supports, autant que l'État n'a pas de moyens pour subvenir aux besoins des professeurs? Les étudiants congolais, comme ailleurs, par exemple, lorsqu'un étudiant prend son inscription, il y a tous les frais y compris, même il a droit à la
documentation.
Il a droit aux ouvrages, à la documentation. Mais aujourd'hui, depuis que cette décision avait été prise par le ministre Amoindo, ainsi que ses autres partenaires, aujourd'hui ça frise parce que les professeurs ont du mal à mettre leur intelligence, parce que c'est aussi un vol du droit d'auteur et du droit voisin. Ils mettent leur intelligence dans un support qu'ils auraient pu peut-être avoir leur contrepartie. L'État ne paye pas, ainsi ils ne donnent pas aux étudiants. Aujourd'hui ce sont des étudiants qui en souffrent. De notre époque, lorsque nous étions en train d'étudier, les étudiants avaient utiliser ce support parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer les ouvrages, bien sûr. Utiliser, nous continuons à utiliser ce support, ça nous aide même dans la pratique. Comme avocat, comme praticien du droit, ça nous aide à nous émerger actuellement. Les étudiants sont laissés à leur triste sort et on est en train de rappeler, ne faites pas, mais est-ce que ces professeurs-là doivent-ils mettre leur intelligence sans une contrepartie? C'est un problème aussi. Alors, le problème des supports, il y a le LMD qui arrive directement sans que ça soit préparé. Mais bon, c'est vrai que c'est un bon système. En Europe, là, ça réussit parce que le LMD, d'abord, il faut une capacité quand même de professeurs. Ici au Congo, déjà, on n'a pas plus de professeurs. Il y a des universités où on n'a même pas de professeurs. On a une carence d'enseignants, de personnel enseignant. Mais vous venez improviser. Donc, nous avons un problème structurel, un problème formel, un problème légal. Mais qu'à cela ne tienne, comment s'y prendre? Je pense que les étudiants devaient aussi se former d'un côté. Ça, c'est du point de vue structurel, du point de vue de l'État, mais du point de vue aussi de l'étudiant lui-même. L'étudiant doit s'auto-former. Mais aujourd'hui, on assiste à des étudiants qui ne se fient qu'à ce qu'on leur donne dans des auditoires. Alors qu'un étudiant, c'est un chercheur qui doit aller dans des bibliothèques, mais la culture des lectures, des bibliothèques, c'est pas, on ne la voit plus. C'est une culture pour nous qui sommes passés dans des petits séminaires. On sentait que le prêtre nous inculquait ça dès le bas âge. Mais actuellement, on voit moins de personnes qui lisent alors qu'il y a beaucoup de supports qui sont mis en ligne, beaucoup de supports qui sont numérisés, mais peu lisent. Alors, la question que je vais poser à notre invité, qu'est-ce qu'il faut, ça c'était ma contribution, je pose maintenant ma question, qu'est-ce faut-il faire pour que l'enseignement au Congo soit adapté aux réalités locales?
Merci beaucoup, Monsieur Claude, pour cette question principale hein, et pour tes suggestions, compléments d'informations concernant l'apprentissage. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Cette fois-ci, on va donner la parole à Jeannot Louemboué Kitenge. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Monsieur Tati, merci de bien dire mon nom. Je suis depuis le Laraba, je vous appelle. Hein.
Allez-y, à Koulouzi.
Merci beaucoup. Je finirai par poser ma question, mais je commence d'abord par ajouter quelque chose à ce que venaient de dire mes précédents. Que faut-il faire, c'est ça la question, pour bien assimiler
Pour bien assimiler la matière enseignée, oui. C'est notre scolaire ou académique.
Voilà. Je pense qu'il faudrait commencer par le commencement. C'est s'adapter d'abord au monde actuel. Quitter l'archaïsme dans lequel on est coincé. Je parle d'abord de notre pays. Et aussi éviter d'embrouiller les enfants avec des cours d'outre-mer, l'histoire des États-Unis et consorts. Essayer de rentrer apprenant les élèves de ce qui est du Congo. Deuxième secondaire, je me souviens, le fleuve le plus long, c'est Mississippi. Qu'est-ce qui prouve que j'irai un jour aux États-Unis pour voir Mississippi? Ce sont des embrouilles inutiles.
Oui, mais cher Jeannot, ça fait partie de la culture générale.
Culture générale, oui, mais que l'on soit plus d'abord au pays pour aller faire la culture générale. Vous allez voir que dans la vie courante aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on a apprises à l'école ne nous servent à rien. Permettez l'expression. Vous voyez, ça peut faire peut-être rire, mais je pense que nous devons d'abord commencer par l'enseignant ou l'enseignement doit d'abord éviter aux élèves des embrouilles, de donner beaucoup trop de cours qui, de façon inutile. Quelqu'un a parlé ici des étudiants, des licenciés, qui se disent licenciés,
mais qui ne savent pas écrire, oui.
qui sont vides de l'intérieur. Ça fait la honte de voir quelqu'un qui se dit licencié, mais qui est vide de l'intérieur. Pourquoi? Parce que la base était mauvaise. Dans quelles conditions il a? Parce que l'écrire et le lire, c'est à partir de l'école primaire. Dans quelles conditions ces gens ont eu à étudier? Moi, je me souviens, j'étudiais. Hein, quand on commençait les cours à l'école primaire, je m'asseyais par terre. Dieu faisant grâce aujourd'hui, même le français que nous parlons, c'est parce que c'est peut-être le don de Dieu, parce que l'intelligence, c'est le don de Dieu. L'école vient par après.
Le fait de formaliser les connaissances,
autres choses.
Exactement.
Et beaucoup de gens ont grandi avec cette lacune-là. Madame qui était embrouillée par le nombre d'élèves, dont certains s'asseyaient par terre. Le banc, ceux qui avaient la chance d'avoir un banc, c'était les bancs qui coinçaient, qui bougeaient de partout. Quand vous vous asseyez comme ça, vous bloquez les bancs avec un pied pour ne pas que vous tombiez. Vous êtes déjà déconcentré par la manière, donc par les conditions qui vous accueillent.
La qualité de l'enseignement, la qualité d'accueil.
Ce qui fait que l'enseignant, par le nombre des élèves, n'a pas le temps de faire le suivi d'un élève à un autre. Donc, c'est commencer d'abord par bien conditionner les élèves. Parce que c'est là aussi entre en jeu par rapport à la compréhension des matières. C'est pas tous les élèves qui ont la même intelligence, le même QI. Ouais. Mais beaucoup, comme je le dis, grandissent avec des lacunes et s'en vont à l'université, finissant l'université, restant avec ces lacunes-là qui les accompagnent dans toute leur vie. Ouais, un intellectuel, qui se dit intellectuel, licencié, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas bien parler, qui ne sait pas bien articuler, mais qui se dit intellectuel. C'est comme ça que ce genre de personnes, quand ils s'en vont pour représenter le pays, ce n'est que de la honte. Donc, je pense que de l'intérieur, s'il est possible de travailler, par exemple, bien payer l'enseignant pour que quand il vous donne cours, qu'il le fasse avec tout de lui, avec beaucoup de zèle. Et quand on parlait d'un enseignant qui entre et qui dit, bon, Kaloumé, prends, tu as une belle écriture, prends la craie et écris pour tes frères. Je vais vous expliquer demain. L'enseignant est fatigué. Voilà, les conditions. Tout ça, ça entre en jeu. Alors, vous allez voir que quand nous parlons de tous les secteurs au pays, les gens appellent pour se plaindre, pour plus se plaindre que de donner des
idées.
Voilà, de parler positivement. Donc, commençons d'abord par bien conditionner, bien avoir le cadre bien fait. Comme question de permettre à tous les élèves d'assimiler, de comprendre. Nous sommes, excusez-moi l'expression, mais nous sommes vraiment désarriérés par rapport à ça ici au Congo. Voilà pourquoi nous prions beaucoup, hein, pour que Dieu ait pitié de nous. Mais que le cadre, hein, j'insiste un peu, qu'on n'embrouille plus les élèves comme on le faisait à notre époque, avec des cours d'outre-mer et consorts, ça embrouille les élèves et quelqu'un qui la concentration, je pense que lui, le monsieur sur le plateau, c'est un expert. Mmh. La concentration, elle est limitée. Quand on embrouille l'élève avec un, deux, trois cours, quatre cours, trop de questions, ça crée des confusions. Je vais finir par poser une question.
Allez-y maintenant rapidement.
Maintenant qu'on va détecter le socle d'élèves, hein, ceux qui comprennent par Louis, comme il a dit, il y en a qui, c'est un dérangeant qui comprend. Comment, et donc ces gens-là, une fois détectés, hein, ces gens d'élèves, faudra-t-il le mettre toujours ensemble ou bien faudra le diviser selon la manière dont chacun comprend pour permettre à l'enseignant de bien donner cours, puisque l'assimilation des matières n'est pas la même pour tous les élèves. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Nous rappelons que c'est depuis Lualaba, à Kolwezi, que vous intervenez, monsieur Louembe. Excellente journée. Coach, comment répondez-vous à nos auditeurs? On va commencer par l'auditeur de Bounia, Justin.
Bon,
qui déplore le fait qu'il y a quelqu'un qui est licencié mais qui ne sait ni lire ni écrire, c'est que il y a eu un problème dans l'apprentissage.
Ok, moi j'apporte les solutions. Mmh. Et la plupart posent des problèmes, moi je viens pour les solutions. D'abord, je suis d'accord que l'enseignement doit être centré sur l'élève. Ça c'est vraiment ce qu'on doit changer, doit être centré sur l'élève. Directement, je réponds à la question
de Jeannot. Il doit être personnalisé ou généralisé? Personnalisé ou d'une manière générale?
C'est là où j'arrive. C'est pour répondre à Jeannot directement. Ça dit quoi? Il y a l'enseignement des groupes, la classe.
La salle de classe.
Voilà. Et là, c'est l'enseignant qui sait que dans cette salle de classe, il y a des visuels, les kinesthésiques et les auditifs. C'est à l'enseignant d'adapter son langage. Il y a des techniques pour ça. J'ai mis ça dans mon livre. Il y a des techniques. Comment est-ce que l'enseignant doit parler pour que chaque groupe bénéficie? Maintenant, dans les suivis, il a parlé des conseils d'orientation, tout ça. C'est ça, les suivis. C'est-à-dire qu'il y a l'enseignement en particulier par rapport au niveau de chaque élève. Il y a un enfant qui a 80%, l'autre a 30%. Si vous continuez à les enseigner de la même façon, vous n'allez pas aider celui qui a
30%. Celui qui a 30%, oui.
C'est ça les règles de notre enseignement. Mmh. C'est pour cela qu'il y a des élèves qui restent toujours en baisse parce que vous les mettez toujours dans les mêmes conditions. Non, c'est ça la neuropédagogie aujourd'hui. On a les mêmes cerveaux. Le cerveau, c'est comme un téléphone. Nous pouvons avoir les mêmes téléphones, mais le contenu, c'est différent.
Les applications,
l'utilisation. Ouais. Voilà. D'où, il faut adapter maintenant les élèves par rapport à leurs difficultés, à leurs facilités. C'est là où il y a aussi les surdoués. En fait, les surdoués, c'est par rapport aux quatre phases que j'ai citées. Il y a les surdoués dans la concentration. Il y a les surdoués dans la compréhension.
Mais surtout, les surdoués
qu'on connaît, c'est dans la mémorisation et la reproduction. C'est là où vous voyez même les enfants autistes. Il y a des autistes qui sont du côté des surdoués, qu'on appelle les Asperger. C'est-à-dire que là aussi, il faut les adapter. Mais moi, j'apporte les solutions. Je reste dans la prise des notes, parce que c'est le début. Par rapport à la forme, comment écrire, peu importe l'âge, moi, je vais conseiller d'apprendre l'orthographe. Pour apprendre l'orthographe, il faut la lecture.
Et la lecture, c'est par la vision.
Oui, il faut lire. Et il faut écrire. Écrire, prenez la note de quelqu'un qui sait bien écrire, selon vous. Si j'apprécie Tati, comment est-ce qu'il écrit, je prends une page que vous avez écrite.
Je reproduis.
Ça, je m'entraîne à reproduire.
S'exercer à écrire.
À écrire, à lire et à écrire. Là, maintenant, vous allez améliorer déjà votre forme d'écrire. Maintenant, il y a maintenant, lorsqu'on prend note, ce n'est pas seulement pour bien écrire. Maintenant, ça reste maintenant dans la compréhension et la mémoire. Ça, c'est la deuxième partie. Là, je disais ceci. Pour avoir l'attention et la concentration, les visuels doivent se mettre à droite. Pour voir beaucoup plus à gauche, et ça va être encaissé à droite. L'auditif doit se mettre à gauche dans la salle pour écouter plus avec l'oreille droite, qui amène l'information là où on doit l'enregistrer. Les kinesthésiques au milieu. Même là où les élèves restent à trois, mettez les kinesthésiques au milieu, comme ça il va déranger les autres, les bouger, les toucher. S'il est seul, il ne va pas très bien apprendre. Lui, il a besoin qu'il touche un peu les autres. Donnez lui-même une boule. Maintenant, on donne aux élèves, il y a une boule à la main, il peut jouer avec. Il y a des écoles sous d'autres sites où on met même des vélos, des gros ballons. Il est là, il pédale, comme ça, il peut bien suivre. Parce qu'on a l'intérêt, c'est ça, centré sur l'enfant. Mmh. On a besoin qu'il puisse comprendre. Bon, si toi, tu mets tout le monde dans les mêmes conditions, ça serait
alors difficile. Qu'ils n'ont
il y a
pas
même
même
des cours qu'on donne dehors. Vous n'êtes pas obligé d'enseigner un enfant. Nous, on dit, restez sur les bancs. Non, un enfant peut apprendre en bas, sur les pavements, même en jouant. C'est ça, les kinesthésiques. Même
vous,
en dehors
de vous sortez dans, voilà, dans la cour,
c'est ça, l'adaptabilité.
Dans les jardins.
C'est ça, l'adaptabilité. Mmh. Ça, c'est par rapport pour capter l'information. Maintenant, pour mémoriser, je vais donner quelques informations pour chaque groupe. D'abord, par rapport à la prise des notes, il y a la prise de notes, il y a aussi la révision des notes, parce que ça fait partie des études. Pour les visuels, j'aimerais que les visuels puissent toujours laisser des espaces pour ajouter des commentaires après, parce qu'il faut pas tout écrire. Il faut écrire l'essentiel. D'où l'élève ou l'étudiant donner priorité à comprendre pour noter l'essentiel. La prise de notes, si vous notez tout, vous allez noter même ce qui n'est pas, et vous risquez de ne pas comprendre. Non. Pour séquencer la compréhension, donner priorité à comprendre pour soutirer l'essentiel. Et vous l'écrivez. Mais laissez les espaces pour ajouter. Pour les visuels retiennent mieux lorsqu'ils soulignent. Mettez en gras, soulignez, ayez des bics de couleur. Quelqu'un m'a posé la question ici, maître Omar, comment déceler? Je vais donner des éléments, parce que c'est très capital. Pour les visuels, il doit aussi être attentif lorsque le professeur change de tonalité. Parce que lui donne priorité à ce qu'il voit. Mais le professeur donne des informations lorsqu'il insiste, lorsqu'il descend. Ce sont des informations que les auditifs captent.
Dans l'intonation de la voix.
Dans l'intonation de la voix, pour qu'il note ce que le professeur a insisté. Parce que parfois, il n'a pas écrit ça.
Oui.
Le visuel rate très souvent des informations auditives. D'où il doit être attentionné chaque fois que le professeur insiste sur quelque chose.
Insiste, s'il n'a pas écrit,
il revient pour qu'il ajoute. Mm. Sinon, il va perdre parce que
ça lui, va lui échapper.
Voilà.
Oui.
Ça, c'est très important. Mm. Et pour les auditifs, lui, comme il donne priorité à ceux qui l'écoutent, très souvent, il ne regarde pas au tableau. C'est des gens qui regardent à côté pour présenter l'oreille. Il faudrait qu'un auditif, pour qu'il améliore ses notes, parce que les auditifs prennent très bien note, parce que lui, il écrit tout, il peut tout écrire. Mais très souvent, il écrit trop. C'est pour cela, lui aussi doit rester concentré à l'essentiel, mais il doit ajouter des dessins. Les résumés que le prof met au tableau, les images que le prof met, comme lui, il donne l'accent à écouter, pour améliorer sa compréhension, qu'il prenne les dessins, les résumés que le prof fait, qu'il puisse les mettre. Et le kinesthésique, lui, c'est vraiment, il doit vivre les cours. Si le prof enseigne ici l'histoire, si la géographie, si la température, lui, il doit vivre ça dans sa vie. L'imaginer ça en réalité dans sa vie, ça reste plus facile. C'est ça un kinesthésique. Lorsqu'on enseigne une mangue, lui n'a qu'à penser qu'il mange une mangue et directement, il va retenir tout ce que le prof va dire. Parce que lui, il est dans les sensations.
Revenons sur Maître Omar. Comment distinguer, arriver à déceler voilà. ces qualités-là?
Les trois catégories. Oui. Voilà. Théoriquement, on pose des questions. Il y a des tests aujourd'hui. Si vous écrivez test des canaux sensoriels, vous allez voir ça pour déceler. C'est même automatique. Il y en a. Moi-même, j'ai créé même un test pour ça. Mais ce qui est plus facile, c'est l'observation.
Internet, hein?
Oui, c'est sur Internet. Mm. On abrège les cinq sens par les mots VACOG. L'acronyme VACOG. V-A-K-O-G. VACOG. Écrivez seulement test VACOG. Vous allez voir, il y a plusieurs tests. Moi-même, j'ai créé un test sur ça. Mais dans l'observation, c'est plus facile. Les visuels regardent les gens dans les yeux. La majorité des enseignants de nos parents sont des visuels. J'ai dit ça ici. S'il te parle, il veut que tu le regardes. C'est un visuel. Si tu ne regardes pas, il se fâche.
Il pense que vous n'êtes pas
attentionné. C'est ça les règles de la neuropédagogie de nos enseignants. Un enfant auditif, pour apprendre, si tu le pousses à te regarder, il n'apprend pas. Il est bloqué. Il faut le laisser regarder à côté parce que c'est là où il présente l'oreille pour apprendre. Exactement. C'est que les visuels cherchent à ce qu'il vous regarde lorsque vous lui parlez. Vous savez déjà que lui, il est visuel. Les auditifs regardent à côté. Les kinesthésiques regardent parfois en bas. Lorsque vous parlez, lui, il regarde en bas, parfois il écrit, mais il t'écoute très bien.
Oui, il te suit
très bien. C'est-à-dire, si vous observez les regards, vous aurez déjà les éléments. De deux, les visuels, comme moi, les visuels, lorsqu'il parle, il bouge les mains. Il ramène les mains dans les champs visuels. Il explique avec les mains, avec les mains, les gestes, comme moi je parle, ça c'est visuel.
Parfait.
Les auditifs, lui, il met ses mains autour de la hanche. Il ne bouge pas trop, mais il est là, il peut même croiser les bras, il parle très bien, parce que lui, il est calmement. Mais le kinesthésique, lui, il bouge dans les sens. Il augmente, il fait monter les mains, mais il fait aussi les descendre. Il peut changer des positions. C'est que lui, en parlant, il est dans les mouvements.
Il peut déranger son camarade qui est à côté. Là.
Il t'appelle pour te parler, là, il t'appelle, viens un peu. Il cherche à ce que tu te déplaces pour que ça marche. Ça, c'est-à-dire dans l'observation. Et dans les couleurs, les visuels aiment les couleurs. C'est des gens qui s'habillent en couleurs. Les auditifs aiment les ternes. Ils sont dans les beiges, les kakis, tout ça. si vous lisez les livres que j'ai écrits sur le président Fatih, vous allez comprendre ça. Et puis, c'est qu'il y a des caractéristiques que nous donnons, que les enseignants doivent savoir ça pour discerner ses élèves. Mais l'enseignant, lui, il enseigne les trois catégories. Mmh. Maintenant, dans les suivis en particulier, il faut adapter par rapport à chaque élève, parce qu'ils n'ont pas les mêmes difficultés. C'est ça ce qui est important. Maintenant, ça, c'est prendre note. Mais il y a aussi la révision des notes. Parce qu'ici, il doit mémoriser, il doit comprendre et transmettre. C'est là où moi, je propose toujours que l'élève doit réécrire ses notes. On appelle ça aujourd'hui en neuropédagogie structurer et restructurer. Les enseignants doivent permettre aux élèves d'organiser les notes selon lui.
De reproduire les notes à sa manière.
À sa manière. C'est pour cela que j'ai compris par après pourquoi s'il y avait des professeurs qui nous demandaient
avec
dans des questions,
hein,
ils vous disent décrivez-moi la table des matières. Et on appelle ça quoi? Les plans du cours.
Les plans du cours, oui.
Voilà. L'élève doit comprendre les cours, comment c'est structuré, mais il doit les restructurer à sa manière, l'organiser à sa manière, l'écrire à sa manière.
Avec ses propres mots, s'il
le comprend. Avec ses propres mots, avec sa compréhension. Même s'il les cours en français, il peut même les comprendre en lingala ou en anglais, peu importe la langue, l'essentiel qu'il puisse les reproduire, les restructurer. Deuxièmement, l'élève doit être capable de se poser des questions et de répondre. Nous, moi personnellement, d'ailleurs, j'ai composé une liste de questions. Lorsque je lis chaque paragraphe, chaque partie du cours, je compose une question à côté. Et je reprenais seulement les questions, je me promenais avec des questions et je répondais. Ça fait partie de la pensée de ce qu'on appelle la révision des notes. Et puis, enfin, enseigner. Il faut en parler. C'est-à-dire, l'élève, j'insiste, les étudiants, les élèves. Lorsque vous prenez note, lorsque vous le reproduisez comme ça, il faut être capable d'en parler à votre frère à la maison, votre sœur, votre maman, les parents doivent aussi suivre ça.
Donc les enseignants doivent également laisser donner l'occasion aux apprenants de poser des questions, de parler, de discuter.
Et d'enseigner.
Ça soit qu'il n'y a pas que le maître qui dit.
Si vous voulez améliorer celui qui est faible là, dites-lui le cours d'aujourd'hui, moi je vais enseigner, la fois prochaine, toi tu vas expliquer aux autres. Qu'il ne t'explique pas à toi enseignant, j'insiste. Enseignement des pères, c'est-à-dire l'élève enseigne les élèves,
ses collègues, ses amis,
comme ça,
ses camarades.
Oui. Vous serez là pour observer, pour les organiser, laisser ceux qui sont faibles enseigner. Toi, tu es expert parce que tu es enseignant. Oui. C'est que ça, c'est des méthodes très importantes. Maintenant, enseigner, M. Claude Nyembo dit que...
La qualité de l'enseignement.
Voilà, l'enseignement, si on peut l'adapter aux réalités locales. Je dirais oui et non. D'abord, ici nous parlons de l'intelligence. Hein. Le cerveau, c'est universel.
Reste un cerveau.
Le cerveau, c'est un cerveau. L'intelligence, c'est universel.
Ça soit au Japon,
vous allez l'utiliser partout.
Aux États-Unis, voilà.
Là où nous circulons dans le monde, on vous apprécie par rapport à votre intelligence, si vous
tout simplement,
bien
oui.
ou pas.
Voilà.
C'est que ici, moi, je parle de l'enseignement par rapport de façon universelle.
Coach, on est parti à l'émission.
L'adapter
est largement
consommé. Je suis d'accord
consommé.
Qu'il faut l'adapter en non-réalité parce que l'enfant va travailler quelque part, va faire un travail, il faut l'adapter.
Oui.
Ça, je suis tout à fait d'accord.
Oui, on va faire ceci, coach, parce que c'est tellement intéressant le thème. Donc, vous allez revenir prochainement, cette fois-ci, pour tabler du côté des enseignants. Comment mieux dispenser la matière,
c'est
mieux
tout.
Enseigner. Nous allons revenir là-dessus. Prenons rendez-vous la semaine prochaine.
Voilà, les livres sont là.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, coach Gilles Senumbal. Vous êtes coach mental, néphrologue,
sophrologue,
excellente journée, merci d'avoir été avec nous dans cette émission Okapi Service. C'est par ici que s'achève le magazine Okapi Service, que j'ai eu l'immense plaisir de le présenter. Grâce à vos était à la réalisation, Alain Goy s'est occupé de la prise des sons. Excellente journée, et le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous du magazine Okapi Service. Excellente journée.